Bonjour Monsieur Drutel, merci d'avoir répondu à notre demande d'interview. Hier, nous avons interviewé le docteur Philippe afin d'en savoir plus sur votre maladie et sur les greffes. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement honorés de pouvoir questionner le seul bigreffé cœur-poumon à avoir réussi l'exploit de courir le marathon de Paris, c'est-à-dire vous.
Bonjour Monsieur Drutel.
Bonsoir les enfants. Donc, ça fait très plaisir aussi de vous entendre.
Merci. Nous aussi. Merci. Donc tout d'abord, juste avant de commencer, parlez-nous un petit peu de votre état de santé actuel.
De mon, pardon, j'ai pas entendu.
De votre état de santé actuel.
Mon état de santé actuel. Mon état de santé actuel, il est très bon en fait. Si on part du principe que... après tout dépend à qui on se compare. Mais aujourd'hui, il est très très bon. La preuve, c'est que j'ai pu courir un marathon. Donc aujourd'hui, mon état de santé, il est même parfait. Après, il y a plein de soins qui sont à effectuer, il y a beaucoup de médicaments à prendre, et à part ça, je vais très très bien.
Donc ça veut dire que vous n'avez plus la mucoviscidose ?
Non, ça ne veut pas dire que je n'ai plus la mucoviscidose, parce que la mucoviscidose, elle est génétique, et du coup, moi, si vous voulez, on m'a changé simplement les poumons et le cœur. Donc je n'ai plus la mucoviscidose sur les poumons et sur le cœur, par contre, j'ai encore la mucoviscidose sur toutes les autres parties différentes. Il y en a qui sont détectées un peu plus tard, d'autres un peu plus tôt. Et moi, la maladie, elle a été tout de suite très grave. Donc en fait, j'ai été détecté quasiment à 2 mois, je crois. À 2 mois, directement, on a fait les tests parce que j'avais pas besoin du tout. Et ils ont trouvé que c'était la mucoviscidose.
Et est-ce que vous avez eu des symptômes ou ce genre de choses?
Alors moi, je m'en souviens pas, mais on m'a expliqué. Mais vu que j'avais 2 mois, hein. Mais du coup, si vous voulez, la maladie, elle déclare, on peut dire qu'elle déclare, ouais. Quand j'avais énormément de problèmes respiratoires, tout petit, j'avais des infections bronchiques très très vite, donc des infections au poumon, donc beaucoup de, comme vous quand vous êtes malade, mais moi c'était multiplié par 2, 3, voire 10 peut-être, et donc il a fallu trouver pourquoi j'étais infecté comme ça et pourquoi j'arrivais pas à respirer. Donc c'est pour ça qu'on a fait plein de tests et la maladie à laquelle on pensait dans des cas comme ça, bah, c'est la mucoviscidose et ça a été le bon diagnostic.
D'accord.
Alors tout à l'heure vous nous avez dit que vous prenez des médicaments concernant votre état de santé, mais est-ce que c'est un traitement lourd? Et quels sont ces médicaments? Est-ce que c'est dur à prendre? Est-ce que ça vous fatigue des effets secondaires comme ça?
En fait, si le traitement, moi je prends à peu près... j'ai encore des médicaments pour la mucoviscidose, parce que la mucoviscidose, c'est une maladie qui affecte le système respiratoire, mais aussi le système digestif. Donc moi, la partie respiratoire, elle va très bien. Par contre, j'ai encore des soucis sur le plan digestif, où il faut que je prenne des médicaments en fait, pour digérer tout ce que je mange. Parce que si je prends pas ces médicaments-là, et ben je digère pas, et du coup, c'est comme si ça servait à rien que je mange, quoi. Donc j'ai encore beaucoup de médicaments pour tout ce qui est digestion, mais c'est des médicaments qui se prennent par la bouche, hein. Et puis après, j'ai des médicaments pour que mon corps il rejette pas l'organe. Les organes, parce que j'en ai deux. Du coup, ça s'appelle des anti-rejets. Donc ces médicaments-là, ils sont faits pour que mon corps et ben, n'attaque pas mon cœur et mes poumons. C'est est-ce que c'est lourd ou pas. J'ai eu tellement des soins qui ont été 10 fois plus lourds, voire 100 fois plus lourds que ceux que j'ai aujourd'hui, que pour moi, c'est pas grand-chose. Après, je pense que si demain, quelqu'un qui va super bien, on lui dit qu'il faut prendre une trentaine de médicaments par jour, forcément, ça va être compliqué. Mais moi, en fait, je l'accepte bien, parce que je l'ai depuis tout petit. Ces médicaments-là, j'ai tout le temps pris des médicaments. Et donc, quand prendre des médicaments, si c'est pour aller bien, ça ne pose pas de problème.
Très bien, merci.
Et hier, nous avons parlé avec le docteur François Philippe des anti-rejets, et il nous a dit que c'était la principale cause souvent de l'échec d'une greffe. Et vous, comme vous les prenez encore, est-ce que ça continue à vous faire des petits effets parfois, ou pas du tout, ou ça a arrêté?
Des effets secondaires, vous voulez dire?
Oui, c'est ça.
Moi, j'ai pas eu. Alors, ça dépend des patients, hein, mais moi, j'ai pas eu d'effets secondaires par rapport à ces anti-rejets-là. des effets, enfin, en parlant des effets secondaires qui se voient directement, il y en a qui tremblent beaucoup, il y en a qui ne supportent pas les médicaments, qui vont être malades, etc. Moi, je n'ai pas eu ces soucis-là. Par contre, les anti-rejets, ils ont des conséquences qui peuvent être plus graves que ça, parce que c'est des médicaments assez costauds, et donc du coup, ils abîment beaucoup les reins. Donc ça, au long terme, forcément, les reins vont être fatigués, et peut-être qu'un jour, il faudra faire une greffe de reins, ou pas, on verra. Mais pour l'instant, j'ai pas de soucis avec les médicaments anti-rejets, pour ma part.
D'accord. Très bien. Et je voulais savoir aussi, est-ce que vous avez subi plusieurs opérations et si oui, combien ?
Mais quel type d'opération vous voulez parler ? Parce qu'il y a des opérations, comme j'ai pu avoir, qui sont des greffes, ou des opérations...
Oui, au niveau de la greffe.
Moi, j'en ai eu deux grosses. Hein. Après, j'ai eu des petites interventions, comme tout le monde. Mais j'ai eu deux grosses interventions qui ont été ma première transplantation du cul de ma mère en 2008. Hein. Et puis, j'ai eu une grosse intervention un an après, parce que la première transplantation n'a pas marché. Donc, il y a été une intervention cardio-pulmonaire. Entre ces deux interventions, j'ai eu aussi environ, je crois, 5 anesthésies générales, parce que il fallait qu'on... mes premiers poumons ne fonctionnaient pas bien, en fait. Les bronches se rétractaient, si vous voulez. Donc, au niveau de là où ils sont suturés, là où ils ont cousu le nouveau poumon, et ben mes bronches elles réagissaient en fermant, ça provoquait ce qu'on appelle les sténoses. Et donc il a fallu mettre des prothèses à l'intérieur de mes poumons pour que je puisse continuer à respirer. Donc j'ai eu pas mal d'interventions entre les deux transplantations, qui ne sont pas des interventions à cœur ouvert, mais on est quand même endormi complètement, pour aller mettre des prothèses bronchiques à l'intérieur des bronches.
D'accord,
pour
merci.
Pour réussir à faire passer l'air.
Et est-ce que vous avez peur de ces opérations, de toutes les anesthésies, des greffes et tout?
Ou est-ce que vous aviez ou peur?
La première, on a un peu peur parce qu'on ne sait pas trop où on va. Et puis quand on rentre dans un bloc comme ça, hein, c'est comme dans... Même Grey's Anatomy, ne montre pas le même bloc. Hein. c'est vraiment quelque chose de très grand avec... des projecteurs partout, il y a un nombre d'infirmiers qui, je sais pas, il y a plus d'une dizaine autour de moi. Enfin, c'est vraiment des grosses, grosses interventions avec des équipes importantes autour de nous. Et du coup, forcément, vu qu'on n'arrive pas, on ne vient pas se faire opérer de l'appendicite. Hein. Donc, on ne sait pas si on va repartir de ce truc-là. Et forcément, on a un peu peur. Après, on est quand même dans une situation quand on attend une greffe pulmonaire et quand on rentre dans le bloc pour se faire greffer les poumons. Où on est tellement mal que moi, c'était la seule chance pour vivre. Et si je n'avais pas cette transplantation, je ne serais plus là aujourd'hui. Donc du coup, on y va quand même très facilement. Je n'ai pas douté avant d'y aller. Pour moi, il fallait y aller, c'est sûr.
D'accord, merci.
D'accord, je comprends. Et on voulait vous demander aussi à propos d'opérations, on continue sur notre lancée. Quels sont déjà les inconvénients avant l'opération ? Peut-être en rapport ou peut-être pas. Et quels sont les avantages après ? Est-ce qu'il y a des changements ? Est-ce qu'ils sont positifs, négatifs ?
Bah moi, si vous voulez, avant, je respirais plus. Donc, les inconvénients, avant, j'arrivais plus à respirer. Moi, si j'avais pas une greffe, je serais mort. Donc, forcément, c'est très dur avant. J'étais sous perfusion. Antibiotiques quasiment toute l'année en non-stop. J'étais sous oxygène, j'avais des infirmières qui passaient matin, midi et soir à la maison, j'avais de la fatigue respiratoire, je faisais des aérosols. Enfin, mes journées étaient très très compliquées, hein. Surtout rythmées par des soins en fait. Alors vous voyez, après ma deuxième transplantation, j'avais plus d'aérosols, j'avais plus d'oxygène. J'avais plus de perfusions antibiotiques, donc j'ai plus d'infirmières qui passaient à la maison. Et surtout, j'ai pu reprendre le sport, j'ai pu reprendre comme il faut mes études, finir mes études. Alors moi, avant la greffe, ma vie, elle était vraiment en suspens, où on attendait quelque chose pour que je puisse continuer à vivre. Donc l'avant-greffe, il est c'est très compliqué. L'après-greffe, c'est l'extase, quoi, parce qu'on fait, on retrouve une vie qu'on n'a jamais eue avant. Voilà. Donc on vit enfin.
D'accord.
Donc c'est super.
Et comment aviez-vous vécu votre première opération qui a échoué? Quel était votre état? Vous étiez désespéré, déçu?
Eh ben, forcément, on est déçu parce qu'on a quand même bien galéré et que l'opération c'est quand même dur, la réanimation c'est très dur. Et puis finalement, après la première transplantation, je me retrouve dans un état à moi équivalent à ce que j'étais avant la première, quoi. Donc la greffe, elle avait pas eu le but qu'on voulait. Par contre, elle m'a quand même sauvé la vie. Parce que peut-être que si je l'avais pas eu, je serais pas en vie. Donc j'étais encore très insuffisant respiratoire, mais mine de rien, j'étais encore là. Donc ça a été dur de se dire que ça a échoué, mais dans l'idée, il y avait encore une solution, on pouvait encore regreffer. Donc moi, tant qu'il y a de l'espoir, j'essayais de garder cette attitude positive où je me disais, c'est pas encore fini, on va essayer d'y retourner. Et puis voilà, mais après, je ne cache pas que c'est quand même compliqué. Le fait d'y retourner, c'est pas facile parce que la première, ça a été compliqué, ça a été difficile, ça a été l'enfer. Donc faut se remettre dans la tête que c'était l'enfer, mais il faut quand même y aller. Donc il faut accepter de souffrir.
D'accord.
Mais je comprends pas. Vous dites que ça vous a sauvé la vie alors que ça a échoué, je ne comprends pas. Ou alors c'est moi qui n'ai pas bien écouté ou pas mal compris, mais je ne comprends pas.
Parce que, en fait, quand j'ai attendu la première greffe, peut-être que si je l'avais pas eu, par exemple, vous avez vu Grégory Le Marchal qui est décédé très très rapidement, quasiment pour nous du jour au lendemain, et bien peut-être que si j'avais pas eu la greffe, la première en juin 2008, peut-être que 2 mois après je serais mort. J'en sais rien. Il suffit que la mucoviscidose, c'est une maladie qui quand elle commence à être très présente dans la vie du patient, elle peut faire basculer très très vite du jour au lendemain les choses. On la maîtrise pas trop, cette maladie. Ça peut aller très très vite. Et du coup, peut-être que 2 mois après, j'aurais été mort. Je sais pas.
D'accord. Et moi, en cherchant les informations sur vous, justement, avant de vous rencontrer, j'ai vu quelque part qu'après votre greffe de cœur, quelques nuits après, je crois, vous vous étiez réveillé, le respirateur vous gênait, vous l'aviez enlevé et vous étiez sorti de votre lit comme une fleur. C'est vrai?
Ouais, c'est vrai, vous avez bien cherché. ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. J'étais même attaché au lit, il m'avait attaché les mains. Parce que la première fois, j'avais été très agité et j'avais déjà retiré de mon tube le respirateur la première greffe. Et du coup, quand ils m'ont vu arriver sur la deuxième transplantation, ils m'ont attaché pour pas que je le retire. Et malgré tout, ils savent pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à le retirer. du coup, l'infirmière avait fait quelque chose pendant 5 minutes, quoi, et puis elle s'est retournée et j'étais sans le tube et respirais super bien.
D'accord,
très bien reçu.
Et tout à l'heure, vous avez parlé de Grégory Le Marchal. Que pensez-vous de lui?
Eh bien, je pense pas grand-chose. Après, c'est quelqu'un qui était une très belle personne. Malheureusement, il est parti trop tôt. Il a fait des choses qui sont super bien, hein. C'est clair. Hein. Et ça, malgré tout, enfin, il est décédé, mais finalement, sa mort, au moins, elle a servi à quelque chose qu'aujourd'hui. Parce que ça a permis de montrer aux gens que la mucoviscidose, elle peut basculer très vite du jour au lendemain, que les gens, ils décèdent. Et là, j'en suis bien désolé pour lui, mais il y a eu un cas concret, connu, qui a fait un peu changer le regard des gens et qui a fait connaître encore plus la mucoviscidose. Mais c'était forcément quelqu'un d'exceptionnel. C'est bien dommage qu'ils sont partis.
Est-ce qu'on peut vivre normalement quand on a la mucoviscidose sans être greffé?
Ben en fait, il y a beaucoup de mucoviscidoses différentes. À l'époque, il n'y avait pas de dépistage automatique quand on mois à la maternité. Donc si au bout de quelques années ou quelques mois, il y avait des problèmes, on disait peut-être que c'est la nico, et là on faisait les tests. Aujourd'hui, il y a des tests qui sont systématiques. Donc demain, si dans 10 ans, vous avez des enfants, ou un âge, etc., et bien, on va faire les tests des enfants pour savoir s'ils ont la myco. Et donc du coup, on détecte des myco aujourd'hui qui sont beaucoup moins agressives que certaines. Il y a des patients qui ont la mucoviscidose, donc ils vont très très bien. Et peut-être qu'elle va se dégrader très très tard. On ne sait pas trop. Des fois, on a du mal à la maîtriser, cette maladie. Et pour eux, bah, vivre avec la mucoviscidose, finalement, c'est pas si compliqué. Et puis, il y a des patients comme moi qui ont une transplantation à une vingtaine d'années. Et puis, il y en a qui en ont besoin beaucoup plus tôt, avant l'âge de 10 ans. Donc, vous voyez, bah, suivant les cas, et suivant les patients, et suivant comment on décide de réagir à la maladie, eh bien, on n'a pas les mêmes atteintes, on n'a pas les mêmes difficultés. Donc, il est compliqué de dire... c'est compliqué ou pas de vivre avec la mucoviscidose, mais en règle générale, sur des patients qui ont des difficultés énormes, c'est forcément plus dur que pour vous.
D'accord.
Parce qu'il y a des soins, parce qu'il y a beaucoup de choses à régler à côté, parce que c'est pas facile de prendre des médicaments tous les jours, d'aller à l'hôpital tous les jours, d'après sous oxygène, je sais pas, à l'âge de 10 ans, à l'âge de 14 ans, ça devient compliqué. Mais malgré tout, eh bien, quand on veut vivre quand même, ben on arrive toujours à trouver des solutions pour vivre avec des maladies.
D'accord.
Il faut accepter de se faire aider.
D'accord.
Et je voulais savoir aussi, pourquoi avez-vous voulu courir le marathon alors que vous saviez déjà que vous aviez des problèmes de santé?
Ben, aujourd'hui, en fait, j'ai pas... Je ne considère pas que j'ai des problèmes de santé. Aujourd'hui, je me trouve très bien et très en forme. Le marathon, à la base, c'était un défi simplement lancé par un ami, hein, à moi. Voilà, une sorte de pari, hein, comme vous pouvez faire un pari avec n'importe qui. Et puis finalement, cette personne-là et d'autres personnes m'ont dit qu'il faut communiquer là-dessus parce que c'est pas tous les jours qu'il y a un transplanté cardio-pulmonaire qui va faire un marathon. Donc du coup, j'ai commencé à communiquer et ce défi-là, il s'est transformé petit à petit en un moyen de communication pour essayer de donner de l'espoir à ceux qui sont malades, à ceux qui doutent, et de leur dire qu'il ne faut jamais jamais perdre espoir, jamais lâcher prise parce que des fois, il y a des miracles qui se passent. Voilà. Il y a 8 ans, si personne aurait misé sur moi pour en disant « Jonathan, il va courir un marathon dans 8 ans ». C'est impossible, quoi. On ne savait même pas si j'allais continuer à vivre. Et voilà, on a gardé cet espoir-là et finalement, ça marche. Donc le but du marathon, il a vraiment été de porter un message d'espoir.
D'accord. Donc maintenant qu'on est passé au marathon, quel a été votre temps en tant que coureur?
Alors, le temps, on a mis 5h16.
D'accord.
Pour finir.
Et quel est votre prochain défi?
Le prochain défi, il est très bientôt. Il est fin mai, pour le week-end de l'Ascension. Le grand week-end, là, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et avec les mêmes amis avec qui j'ai fait le marathon, et là on va faire, et d'autres, hein, et là on va faire Paris-Saint-Malo en vélo sur 3 jours. Donc ce qui représente à peu près 440 km.
Maman, eh bien bravo, hein.
J'ai pas encore fait. Et voilà, on va faire ça. Et donc il y a... Alors sur le marathon, j'étais le seul à le faire, qui était greffé des amis. Par contre, là sur Paris-Saint-Malo, il y a aussi... j'ai aussi une copine qui est greffée des poumons, greffée de la moelle osseuse, j'ai un autre qui est greffée du foie, et puis il y a quelqu'un d'autre qui est greffée du cœur aussi. Donc on est... Et puis il y a des gens aussi qui ne sont pas greffés du tout, qui viennent avec nous.
Eh bien, félicitations pour tout ce que vous faites, parce que c'est vraiment très très courageux de votre part. Hein.
Et enfin, j'aimerais vous poser une dernière question. Et cette question, ça fait longtemps que j'avais envie de la poser à quelqu'un comme ça. Et je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui ont comme vous la mucoviscidose?
Eh ben, moi je leur dirais simplement, pour moi, il ne faut pas prendre. Il y en a beaucoup qui me disent tu as un exemple, etc. Moi je ne me considère pas comme un exemple. Le but, il est de montrer qu'on peut y arriver. Il y a plein de manières d'y arriver, il y a plein de manières de s'en sortir. Et il faut avoir un peu de chance aussi. Parce que des fois, il faut avoir un peu de chance. Par contre, il faut savoir s'entourer aussi. Il faut savoir se faire aider. Quand on est malade ou quand on n'est pas malade, c'est très important. Tout seul, on n'y arrive jamais. Et si on se fait aider, si on communique sur les problèmes qu'on peut avoir, et ben, on arrivera toujours à trouver de l'aide. Et finalement, on va y arriver comme ça. Et donc moi, c'est un peu le message que j'ai, c'est communiquer pour se faire aider. Il n'y a pas une bonne méthode pour y arriver. Moi, ma méthode, c'était ma méthode à moi. Il y en a sûrement plein d'autres qui peuvent marcher. Il faut s'approprier chacun sa manière d'être et sa manière de faire, éviter contre les événements, que ce soit une maladie ou autre chose. Et surtout, il ne faut, faut jamais perdre espoir. Il faut toujours dire que des fois, il y a des choses qui peuvent se passer et ça peut être en notre avantage ou pas. Et si on fait tout pour que ça soit à notre avantage, souvent ça tourne à notre avantage. Et donc il faut toujours garder cette petite lueur d'espoir. Que ce soit quelqu'un qui soit malade ou autre, pour vous aussi, hein, dans vos projets ou familial, personnel, professionnel. Il faut toujours y croire même si c'est compliqué.
Merci beaucoup, ça nous motive.
C'est sûr.
Et je voulais savoir aussi, pourrions-nous vous recontacter après votre prochain défi pour savoir vos impressions?
Bien sûr, mais vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, hein, parce qu'on a... alors moi j'ai ma page sur Facebook, vous pouvez me suivre. Et puis on a créé une page qui s'appelle les bikers, donc c'est les bikers pour les bikers du cœur. Parce que les bikers, c'est ceux qui font du vélo ou des choses à deux roues. Donc, biker, ça s'écrit B-A-I-C-O-E-U-R. Voilà. Vous cherchez sur Facebook, vous pouvez nous suivre. Alors, on va mettre tout le long du parcours des photos. On va communiquer bientôt sur le parcours. Et si vous voulez nous contacter, vous pourrez même nous faire une interview tout ensemble.
Eh bien, très bien.
D'accord. Eh bien, Monsieur Druitel, ce fut un vrai plaisir de vous interviewer. C'était vraiment très, très intéressant. On a appris beaucoup de choses. Et je pense qu'en une seule interview, vous avez réussi à diffuser beaucoup de messages d'espoir. Donc, merci beaucoup d'avoir pu vous libérer. Et merci beaucoup aussi pour avoir accepté un contact prochain. Et à bientôt, j'espère.
Et surtout, on ne va pas oublier de vous suivre sur votre page Facebook.
Bien sûr que non.
Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Et puis à très bientôt. Et merci à vous d'avoir fait cet interview. Génial.
De rien.
Merci à vous.
Avec la Martinique.
Pouvez-vous répéter si vous n'avez pas entendu?
Pouvoir communiquer avec la Martinique, c'est super.
Eh ben nous aussi, de communiquer avec vous, c'est vraiment super.
C'est génial. Merci. Et au revoir.